À l'écoute de RFI, il est 7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
RFI Matin, ça commence avec le journal. Bonjour Guillaume Ouattara.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À la une, en Birmanie, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. 3 jours après le séisme, Mandalay reste dévastée. La Thaïlande voisine, elle aussi touchée par le séisme, achemine de l'aide.
À Gaza, les corps des 15 secouristes portés disparus depuis une semaine ont été retrouvés. Le Croissant-Rouge affirme qu'ils ont été tués par des tirs israéliens. L'armée évoque quant à elle des véhicules suspects. En Turquie, après l'arrestation d'Imamoglu, la rue ne désarme pas. L'opposition réclame sa libération et des élections anticipées. Une mobilisation inédite depuis 2013.
La grâce de Dadis Camara divise la Guinée, condamné pour crime contre l'humanité. L'ex-chef de la junte est libéré. Réconciliation ou calcul politique, analyse à suivre.
Dans ce journal, nous irons également aux États-Unis. Donald Trump menace, Elon Musk finance. Le président américain hausse le ton contre Moscou et Kiev pendant qu'Elon Musk distribue des millions en meeting. Et puis quand Bach rencontre la Havane, le pianiste américain Joachim Horsley fusionne musique classique et rythme afro-caribéen dans son nouvel album, dont vous découvrirez les premières notes en fin de journal.
En Birmanie, les chances de retrouver des survivants sont de plus en plus faibles.
Ouais, 3 jours après le séisme de magnitude 7,7, Mandalay, la deuxième ville du pays, reste dévastée. Plus de 1700 morts, des milliers de blessés et des secouristes épuisés qui peinent à poursuivre les recherches dans des conditions extrêmes, sous près de 40 degrés. L'OMS a déclenché son niveau d'alerte maximale et redoute une crise sanitaire majeure dans un pays déjà fragilisé par la guerre civile. Bonjour Valentin Sébron, vous êtes notre correspondant à Bangkok, la Thaïlande également touché par le séisme, s'organise malgré tout pour porter assistance à la Birmanie.
Oui, même si la Thaïlande est touchée par les conséquences du séisme, elle l'est bien moins que son voisin birman. Les autorités thaïlandaises veulent montrer qu'elles sont en mesure d'aider la Birmanie. En ce moment même, des soldats et des secouristes thaïlandais sont notamment déployés à Mandalay et dans la capitale Naypyidaw pour contribuer à l'aide humanitaire. Hier, un contingent de 55 Thaïlandais a décollé de Bangkok à bord d'un avion militaire en direction de la Birmanie et plusieurs vols de l'armée de l'air thaïlandaise sont prévus jusqu'au 5 avril, date à laquelle le ministre des Affaires étrangères thaïlandais est attendu sur le sol birman. Sur place, les secouristes thaïlandais doivent livrer des produits de première nécessité, de la nourriture et des médicaments à la population birmane. D'un point de vue régional, l'Association des pays d'Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande et la Birmanie font partie, a publié ce week-end une déclaration commune insistant sur le besoin urgent d'aide humanitaire dans la région. Et l'Alliance des 10 pays a déclaré qu'elle était prête à soutenir les opérations d'assistance sur le terrain.
Merci beaucoup Valentin Sébron, correspondant de RFI à Bangkok. Notez que des évacuations d'immeubles ont eu lieu ce matin dans le pays, des évacuations par peur de réplique du séisme. Fausse alerte, a priori, selon les autorités. Malgré la menace persistante de réplique, des centaines de volontaires de la Croix-Rouge birmane poursuivent leurs efforts sur le terrain entre décombres et blessés à secourir. Écoutez le témoignage de Benoît Carpentier, les porte-parole de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
On s'attache à trouver des personnes vivantes sous les décombres, c'est vraiment la priorité absolue pendant les premières heures. Les chances diminuent au fur et à mesure que le temps avance. En même temps qu'on a cette course contre la montre, on a aussi besoin de s'occuper des gens qui ont été blessés, donc il y a besoin d'énormément de soins, et puis tous les gens qui sont sans abri. Et en plus de ça, on a bien sûr l'accès à l'eau potable, pour les populations qui sont dans un état de vulnérabilité extrême. Il faut remettre dans le contexte, on est dans un pays qui fait face à des catastrophes naturelles récurrentes, sur lesquelles on était toujours en train d'intervenir d'ailleurs. Il y a des vagues de chaleur, il fait plus de 40 degrés dans la capitale. Plus l'instabilité politique et les conflits internes, ça fait une situation qui est très très compliquée à gérer. Ce qu'on va avoir besoin très rapidement, c'est des financements. On a lancé un appel d'urgence ce matin pour 100 millions de francs suisses pour qu'on puisse déployer toutes nos unités, tout ce dont on a besoin pour pouvoir répondre à l'urgence le plus rapidement possible. Et puis pour le long terme, on puisse continuer à aider les gens autant qu'ils en ont besoin.
Benoît Carpentier, le porte-parole de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au micro RFI de Constantin Jallot.
Le Croissant-Rouge qui est endeuillé après la découverte hier des corps de 15 secouristes à Rafah, près de Gaza.
Ils étaient portés disparus depuis une semaine, parmi eux donc 8 membres du Croissant-Rouge palestinien, 6 secouristes de la défense civile et un employé de l'ONU, tous tués selon leurs organisations respectives par des tirs israéliens visant des ambulances. L'armée qui a reconnu avoir ouvert le feu sur ces véhicules, les jugeant suspects tout en affirmant qu'ils auraient été utilisés à des fins terroristes. À Ramallah, la correspondance d'Amira Souilem.
C'était leur plus grande hantise. Elle s'est réalisée. Des membres du Croissant-Rouge palestinien ont retrouvé hier les corps de leurs collègues disparus depuis une semaine dans la région de Rafah. Les 15 secouristes issus du Croissant-Rouge et de la défense civile de Gaza étaient en mission suite à des bombardements israéliens quand ils ont été à leur tour visés par l'armée israélienne. Celle-ci dit avoir agi en marge d'une opération visant à éliminer des membres du Hamas. Un communiqué de l'armée stipule que la présence des ambulances lui a paru, je cite, « suspecte ». Les carcasses des véhicules ont été retrouvées dans un piteux état. Quant au corps des secouristes, les équipes sur place disent avoir eu du mal à les récupérer, ceux-ci ayant été enterrés dans le sable, selon un communiqué de la Croix-Rouge. C'est donc la fin de l'attente pour les familles. Cet homme que l'on entend vient tout juste d'apprendre la mort d'un de ses proches. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela ? Il était allé sauver des vies, sur son temps libre, dit-il. Amira Suilem, Ramallah. RFI.
Et sur le terrain, les frappes se poursuivent. À Khan Younes, 8 personnes, dont 5 enfants, ont été tuées dimanche selon les secours. Une nouvelle proposition de trêve est en discussion sans avancée concrète pour l'instant.
RFI 8h06 à Ankara, 5h06 en temps universel. En Turquie, l'opposition poursuit sa mobilisation après l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu.
Une semaine après son incarcération pour corruption, les manifestations se multiplient dans le pays. Objectif affiché, obtenir des élections anticipées et la libération de l'édile pressenti pour affronter Recep Tayyip Erdogan à la prochaine présidentielle. Une contestation d'une ampleur inédite depuis le mouvement du parc Gezi en 2013. Reportage à Istanbul de Daniel Valo avec Bertrand Eclair pour les moyens techniques.
Dès le premier jour du mouvement, les autorités ont bouclé la place Taksim. Pas question de laisser les partisans d'Ekrem İmamoğlu rejoindre ce lieu emblématique adjacent du petit parc Gezi que les manifestants voulaient alors protéger. Le point de départ d'un mouvement de contestation auquel a participé Ali, aujourd'hui âgé de 35 ans, il en avait 23 à l'époque.
Au début, les manifestations étaient vraiment pacifiques et ensuite, les policiers sont intervenus très violemment et c'est devenu presque comme une guerre. Le frère d'un ami à moi a été touché à la tête par une bombe lacrymogène et il est décédé.
La place est occupée durant 10 jours. Son évacuation ultra-violente fait une dizaine de morts. Cette habitante d'Istanbul n'a pas participé, elle, à la révolte de 2013, mais elle manifeste aujourd'hui tous les jours et elle fait un lien direct entre le mouvement actuel et celui du parc Gezi.
À l'époque, ce n'était pas seulement pour sauver des arbres ou un parc. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de défendre un homme politique emprisonné. Dans les deux cas, c'est un combat pour la démocratie.
Gezi est donc considéré par de nombreux manifestants comme un prélude au mouvement actuel. À l'époque, les arbres du parc avaient été épargnés, mais la violence policière et les arrestations qui avaient suivi ont marqué au fer rouge toute une génération. Daniel Valo, Bertrand Eclair, Istanbul, RFI.
Et la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara divise profondément.
Réclamée par ses partisans, elle suscite en revanche stupeur et indignation dans les rangs de l'opposition. Condamné pour crime contre l'humanité dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009. Pour Kabine Fofana, politologue et directeur de l'association guinéenne de sciences politiques, cette grâce peut s'inscrire dans une volonté de réconciliation nationale, mais elle n'est pas exempte de calcul politique.
Ça peut bien se comprendre que les victimes y voient un goût inachevé dans la démarche. Quand on sait déjà que le capitaine Moussa Dadis Camara a été condamné pour 20 ans, il en a fait que 8 mois, cela peut bien se comprendre. Après, est-ce que cela peut avoir une répercussion politique ? Oui, bien évidemment, parce que le capitaine Moussa Dadis Camara, devrais-je le dire, reste encore un personnage important, ou sinon le plus important d'un point de vue politique au niveau de la Guinée forestière.
Donc on peut y voir un calcul politique derrière cela ?
Oui, possiblement, ou même si le calcul n'est pas foncièrement politique, mais il peut avoir des bénéfices politiques. Et ce bénéfice politique-là, c'est le fait quand même de contenter aujourd'hui tous ceux qui se reconnaissent au capitaine Dadis Camara. On a vu les liesses populaires que cela a augré. Il va sans dire que ceci va changer la dynamique ou possiblement la façon de voir le colonel Mamadi en Guinée forestière.
Cabinet Fofana au micro RFI de Pierre Firtion.
En France, c'est aujourd'hui que Marine Le Pen sera fixée sur son sort.
Poursuivie dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National, elle est accusée de détournement de fonds publics. Le parquet a requis une peine de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, et surtout 5 ans d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire, ce qui pourrait compromettre sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen conteste ces accusations qu'elle qualifie de persécution politique.
Aux États-Unis, Donald Trump tire à boulet rouge sur Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.
Ouais, le président américain furieux contre son homologue russe qu'il accuse de ne faire aucun effort réel pour mettre fin à la guerre. Volodymyr Zelensky risque lui de gros problèmes, ce sont les mots de Donald Trump, s'il refuse de signer un accord sur les minerais. Dans ce climat tendu, ses alliés activent la machine électorale. Elon Musk était en meeting dans le Wisconsin. 2 millions de dollars distribués pour tenter de faire basculer la Cour suprême locale. Le récit de Karine Auten.
Elon Musk est arrivé tel une rockstar sur scène, un chapeau en mousse en forme de fromage sur la tête, c'est l'emblème du Wisconsin, et il a vite posé l'enjeu. Pour l'instant, les libéraux détiennent la majorité des sièges, mais le contrôle idéologique de la cour pourrait bien passer aux conservateurs demain. Dans le cas contraire, il faudrait s'attendre à un redécoupage électoral défavorable aux républicains, ce qui pourrait à terme avoir un impact sur le Congrès et sur la civilisation entière, selon lui. La confiance d'Elon Musk a été amplifiée aussi, puisque quelques minutes avant le meeting, la justice du Wisconsin a confirmé qu'elle ne bloquerait pas ses paiements d'électeurs, car le milliardaire a réutilisé la méthode qu'il avait déjà mise à l'épreuve l'automne dernier. Il a offert aux électeurs de les payer s'ils signaient une pétition et tirait au sort 2 gagnants $1 million. Ses avocats ont fait valoir qu'Elon Musk ne faisait qu'exercer sa liberté d'expression et qu'en aucun cas il ne les incitait directement à voter pour le juge conservateur. Comme par le passé, les procureurs n'ont pas réussi à établir la preuve de subordination d'électeurs et la plus haute juridiction a dû refuser de se prononcer. Karine Auten, New York RFI.
Un peu de musique pour terminer ce journal fusionné, le classique et les rythmes afro-caribéens, voire sud-américains. C'est la spécialité du Harim Horsley qui sort son nouvel album que Carmen Lutzmann nous fait découvrir.
Un air de Bach, Jean-Sébastien Bach, et beaucoup de rythmes latins. C'est dans sept titres étonnants et détonnants que Joachim Horsley réinvente les plus grands classiques du cantor de Leipzig, né au XVIIe siècle.
Je ne suis pas la première personne à fusionner musique classique et salsa ou musique latine, mais en tant que compositeur de musique de film, j'apporte quelque chose de nouveau. Je crée mon propre récit. Et si ces compositeurs, Bach, Beethoven, Mozart, n'avaient pas vécu à Vienne, mais à La Havane, à quoi ressemblerait leur musique ?
L'album Afrobach y répond avec un prélude de Bach aux Afrobeats ou une partita africaine aux percussions haïtiennes et brésiliennes. Des arrangements aussi efficaces que éblouissants. Tous signés Joachim Horsley. Ce virtuose du piano, qui en joue depuis ses 5 ans, s'est entouré de musiciens des Caraïbes, d'Afrique et d'Amérique du Sud pour célébrer l'héritage de Bach de manière fidèle et sans frontières.
Afrobac de Joachim Horsley est sorti chez Piace, l'autre distribution.
Et ce sera notre choix musical de tout à l'heure. Merci Guillaume Ouattara, RFI Matin. On est ensemble pour 3 heures d'information avec nos invités, nos reportages et nos chroniques. On sera en Turquie où les jeunes restent très mobilisés pour réclamer la libération de l'opposant Ekrem İmamoğlu, mais pas que, la contestation s'élargit avec des jeunes qui s'inquiètent pour leur avenir.
Si je manifeste, c'est aussi parce que j'en ai assez. J'ai 23 ans et depuis 23 ans, je n'ai connu d'autres dirigeants qu'Erdogan. Je n'ai jamais vu mon pays gouverné par d'autres idées que celles d'Erdogan. Je sors dans la rue parce que les violations des droits ont commencé bien avant ce qu'ils ont fait à İmamoğlu.
En Birmanie, 3 jours après le séisme, la difficile organisation des secours étrangers, comme le raconte le directeur d'une ONG française.
On a une équipe, depuis vendredi matin, l'équipe elle est constituée, mais on ne trouve pas d'avion, c'est très long, il faudrait 2 jours pour arriver. Il y a des problèmes de sécurité, on veut bien envoyer 40 sauveteurs, il n'y a pas de problème, mais 40 sauveteurs à 4 000 € le billet d'avion, vous voyez la facture quoi. Plusieurs bâtons dans les roues là, pour se déployer.
Et si la situation s'est stabilisée autour de Goma, dans le Nord Kivu, les besoins humanitaires restent énormes, nous dira notre invitée Afrique, Myriam Favier du CICR. On parlera aussi du sommet SOS Océan à Paris, avec notre grand invité international, mais aussi dans la question d'environnement. Et puis on entendra aussi la langue, le Sokia. Cette langue, 20 000 locuteurs seulement en Côte d'Ivoire, aurait pu disparaître. On verra comment elle a été sauvée de l'oubli dans le reportage Afrique. RFI Matin, vous avez le programme. Bon réveil et bienvenue si vous nous rejoignez. À la une, en Asie, ce matin, on parle du rapprochement des deux puissances du continent, l'Inde et la Chine, avec récemment la reprise des vols directs entre les deux pays, des avancées sur les visas et même un semblant d'apaisement dans leur conflit frontalier. Comme Bastin, vous êtes notre correspondant en Inde, bonjour.
Bonjour.
Comme cela fait longtemps que l'on n'a pas vu autant de signes d'embellie entre les deux grandes puissances rivales d'Asie.
Oui, et c'est le Premier ministre Narendra Modi qui le dit lui-même, lentement mais sûrement, la confiance et l'enthousiasme reviennent. Et puis encore plus enthousiaste, le consul chinois à Calcutta a jugé la semaine dernière qu'il s'agissait d'un printemps des relations entre l'Inde et la Chine. Alors il se réjouissait justement de la reprise des vols directs depuis janvier entre New Delhi et Pékin après 5 ans d'interruption. Mais ce n'est pas tout. Depuis mars, il est plus simple, moins cher, plus rapide pour les citoyens indiens de demander un visa pour la Chine. Les pèlerins indiens pourront aussi bientôt accéder au mont Kailash, qui est une montagne sacrée pour les hindous, qui est restée inaccessible pendant 4 ans. Cette montagne, elle se trouve dans la région chinoise du Tibet, dans l'Himalaya, à 40 km de la frontière indienne. Justement, cette frontière que les deux pays se disputent, mais sur laquelle les discussions ont repris lors d'une rencontre à Pékin la semaine dernière.
Et les deux pays reviennent de loin, et notamment avec ce conflit frontalier comme...
Oui, et bien sûr, ce conflit que les discussions et déclarations optimistes ne suffisent évidemment pas à régler. Il remonte à 1962, la première guerre sino-indienne, plutôt remportée par la Chine, mais qui a laissé 3000 km de frontières disputées dans l'Himalaya. Et depuis 10 ans, le conflit s'est intensifié. L'Inde reproche à la Chine de construire des barrages, des villages, d'amasser des troupes le long de la ligne de la discorde. Et en 2020, des patrouilles chinoises et indiennes ont fini par en venir aux mains, avec des morts des deux côtés, dont 20 soldats indiens. Et depuis, les deux pays sont en froid, même si les échanges commerciaux, largement à l'avantage de la Chine, continuent.
Et mais alors pourquoi ce léger dégel a-t-il lieu maintenant ?
C'est une bonne question. Officiellement, c'est à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Inde et la Chine qui aura lieu demain, mardi. En réalité, cette date, c'est plutôt un prétexte ou une opportunité. Les discussions sur la frontière avaient repris dès octobre 2024 et les deux pays sont conscients qu'un gel de leurs relations n'est pas dans leur intérêt. Mais c'est sans doute le retour de Donald Trump qui a accéléré les choses parce qu'il est dans l'intérêt de la Chine, qui est vraiment l'ennemi numéro un du président américain, de normaliser et pacifier pour l'instant ses relations avec le voisin indien. Et puis l'Inde, qui est menacée de sanctions commerciales par les États-Unis, veut aussi calmer l'affrontement avec son grand voisin, qui est par ailleurs son premier partenaire commercial. Alors quoi qu'il en soit, la rivalité entre l'Inde et la Chine, elle n'est pas que frontalière ni commerciale, mais elle est aussi géographique, avec une bataille d'influence en Asie dans des pays tels que le Sri Lanka, le Népal ou le Bangladesh. Et celle-ci, elle devrait se poursuivre.
À la une en Asie avec Combastin, correspondant de RFI en Inde. À l'occasion du nouvel an malgache, la diaspora de France a pu profiter d'un court mais agréable retour au pays. Lors d'un festival ce week-end à Paris à la Recyclerie, au menu des conférences, une expo photo, des projections documentaires, mais aussi de la musique et des contes de Madagascar. Reportage à Paris de Sylvie Coffi.
Tambovo, pour bonne année. On peut aussi dire Tchatchinto, on vous souhaite une belle année.
Le nouvel an malgache s'appuie sur le calendrier lunaire, comme l'explique Obi Rakotoson.
Il faut savoir que le nouvel an malgache change d'une année à l'autre, vu qu'on est sur un calendrier lunaire. Mais le 29 mars, c'est aussi la commémoration du 29 mars 1947, qui est l'insurrection malgache contre la domination française. C'est un des points phares de la lutte anticoloniale malgache. Donc c'est une date importante qui tombe en même temps que le nouvel an malgache. Être ici aujourd'hui, c'est quand même très symbolique.
Un nouvel an engagé pour l'organisatrice de ce festival, Audrey Rangiamangia, à la tête de l'association Malagasy Women Empowerment.
Ce festival, c'est aussi un moyen pour toutes les personnes qui œuvrent pour Madagascar de capitaliser ce qu'ils réalisent sur le terrain. C'est ce que nous on fait aujourd'hui, de réduire cet écart d'information entre ce que les gens connaissent de Madagascar ici et les gens sur terrain. Et donc nous, on arrive à le faire, où on fait des cinémas débats. Par exemple, certains films sont interdits de diffusion à Madagascar. pour pouvoir toujours soutenir les réalisateurs et le cinéma malagasy. Mais on a aussi d'autres activités type les conférences pour permettre à une diaspora qui certains ne rentrent plus ou encore des diasporas qui ne s'engagent pas forcément à avoir les informations nécessaires et éclairées sur la situation de Madagascar actuellement.
Un festival qui crée des ponts et des liens, Kalina le découvre.
Première fois, incroyable. Franchement, là, mon pays me manque, j'ai juste envie d'y revenir. C'est très enrichissant. Voilà, on a de la chance qu'il y ait ce genre d'événement ici, avec autant d'associations.
Ce jeu-là s'appelle King a King. C'est une création originale pour apprendre des mots en malgache.
Obi Rakotoson, quant à elle, ingénieure de formation, a mis son métier entre parenthèses. Elle valorise la culture malgache avec son entreprise Lamac, qui crée des jeux de société.
Souvent, on nous dit « Ah, mais t'es malgache, mais tu parles pas malgache. Oh, t'es malgache, mais t'as un accent. T'as vécu à Madagascar, mais t'as pas appris à parler malgache. » Et en fait, c'est des vraies problématiques qu'on rencontre nous de la diaspora ou même de personnes qui ont vécu là-bas et qui n'ont pas eu le parler malgache. En fait, le but, c'est de permettre de mettre un pas dans la culture malgache par la langue. L'idée, c'est de déverrouiller pour embrasser aussi son identité, sa culture, son origine et découvrir Madagascar.
Il y a aussi des histoires de princesses et de princes avec Anta, la conteuse. Et il est temps, en cette nouvelle année, de faire des vœux.
Le reportage France, signé Sylvie Coffi. Dans un peu plus d'une heure, le grand invité international de RFI, Arnaud Pontus, vous recevrez le médecin et explorateur Jean-Louis Etienne.
Oui, il est avec nous à l'occasion de SOS Océan, cet événement international organisé à Paris depuis hier. Jean-Louis Etienne aime se présenter comme un entrepreneur d'expéditions lointaines. Et en lisant la liste de ses exploits, c'est vrai qu'on voyage. On l'a découvert en 1986, quand il a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. 63 jours d'efforts avec des températures descendant jusqu'à moins 52 degrés. Il a aussi réussi en traîneau à chien la plus longue traversée de l'Antarctique, 6300 kilomètres. Homme des pôles, homme des glaces, il est aussi marin parce que la mer mène partout, explique-t-il. Et aujourd'hui, comme tant d'autres, mais avec son sens du récit et du partage, il s'inquiète pour les océans. Les océans sont en danger, il faut les préserver parce qu'ils nous sont indispensables, rappelle-t-il. Ils nourrissent les hommes et régulent le climat de la Terre. À l'heure de SOS Océan, Jean-Louis Etienne vient nous le rappeler ce matin. On prend le large dans une heure.
A tout à l'heure, Arnaud entretient à partir de 6h20 temps universel.
RFI Matin.
Et on parle aussi de ce sommet SOS Océan pour la question d'environnement ce matin. Le président Emmanuel Macron réunit des scientifiques, des politiques à Paris, mais il y aura aussi Harrison Ford, star d'Hollywood. Leonardo DiCaprio devrait aussi signer le manifeste. Des stars qui s'engagent face à la crise climatique, c'est la question d'environnement du jour. Bonjour Florent Guignard.
Bonjour.
Et justement, à quoi sert au fond Leonardo DiCaprio ?
Eh bien, le beau gosse du Titanic, vous le savez sans doute, est l'une des stars les plus engagées pour l'environnement. Exemple, à la présidence des États-Unis, il appelle à voter pour Kamala Harris et son principal argument, c'est la planète contre le climato-négationniste Donald Trump.
Donald Trump continue de nier les faits. Le changement climatique tue la Terre et ruine notre économie.
Et l'engagement de Leonardo DiCaprio ne date pas d'hier.
Non, il y a plus de 25 ans déjà, il crée une fondation qui porte son nom en toute simplicité. Côté cinéma, il a produit des documentaires sur le sujet. Puis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Marion, il y a son rôle dans le film Don't Look Up.
Absolument.
Une métaphore sur le déni climatique. Il jouait un scientifique qui parle dans le vide. Au passage, on espère que ce n'est pas le sort de cette chronique.
Ça pourrait vraiment tourner au désastre.
C'est déjà un désastre.
T'es la fille de la télé qui a dit qu'on allait tous crever.
Bon, Florent, est-ce qu'on va tous mourir ?
J'en ai bien peur, Marion. Bon, vous me direz, c'est la vie, sauf si on agit. Et c'est ce que dira tout à l'heure Harrison Ford dans un message vidéo. Personne d'autre ne viendra nous sauver, mettons-nous au travail. C'était déjà son message il y a 2 ans sur France 2.
Si on ne se bouge pas le cul maintenant, on va perdre cette planète.
Alors pour Emmanuel Macron, avoir des stars à ses côtés pour défendre les océans, c'est plutôt chic.
Oui, peut-être, mais est-ce que c'est efficace ? Déjà, il y a parfois une petite contradiction entre le discours de ces stars sur la crise climatique et leurs actes. C'est l'analyse de Florent Gougou, il est chercheur en sciences politiques.
À quel moment les célébrités portent-elles un message de sobriété ? Leur style de vie est tout sauf sobre.
Un exemple typique de ça, c'est Lewis Hamilton, le champion de Formule 1, qui est vegan. Très bien. Et en même temps, il conduit des Formule 1. Ces Formule 1 dont on sait qu'elles sont transportées entre chaque Grand Prix par des avions.
Ah, les avions. Harrison Ford, il adore ça. Il en a 6, dont un jet privé. Quant à Leonardo DiCaprio, parce qu'on lit aussi la presse People, on le voit régulièrement se pavaner sur des yachts qui crament à les 500 litres de diesel à l'heure.
Bon, c'est un peu fait ce que je dis, pas ce que je fais. Il faut donc relativiser à Florent l'influence des célébrités.
Oui, c'est ce que nous dit Florent Gougou, qui a travaillé sur l'opinion publique face à la crise climatique.
L'information sur les connaissances scientifiques liées aux transformations du climat, la chute de la biodiversité d'une part, l'expérience réelle aussi de ces effets, le réchauffement des températures pendant l'été, les tensions sur la ressource ont bien plus d'effet sur les prises de conscience des individus que l'engagement de telle ou telle célébrité.
Bon, on imagine qu'Emmanuel Macron adorerait faire un selfie avec Leonardo DiCaprio, ça fait toujours son petit effet, ça fait parler dans les médias, ça fait écrire des papiers, c'est d'ailleurs ce qu'on vient de faire.
Eh ben oui, merci beaucoup Florent Guignard pour la question d'environnement. En tout cas, Emmanuel Macron pourra peut-être faire son selfie aujourd'hui avec Harrison Ford qui sera présent au sommet SOS Océan.
À distance, en vidéo.
À distance, ah, merci de le préciser. Dans quelques minutes sur RFI, le retour de l'actualité africaine. On fait un tour en attendant dans la playlist musicale de RFI. On écoute Clou à l'arrière de la voiture. L'arrière de la voiture. Vous retrouvez ce titre dans la playlist du mois de RFI. Dans quelques secondes, un nouveau journal d'actualité africaine.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
le cœur, mieux comprendre son fonctionnement.
Demain,
maladies émergentes et infections, quel défi pour la recherche internationale?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
La Ravachole, la Marseillaise ou Vas-y Léon, des fêtes révolutionnaires au bal du Front Populaire. La musique a accompagné l'évolution politique de la France et a été utilisée aussi pour renforcer le sentiment patriotique. C'est l'objet de l'expo Musique et République aux Archives Nationales.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.